tous. Ils sont rebelles. Semeurs de calomnie. Tous. Ils sont corrompus. Le souffle est haletant. Pour que le plomb soit dévoré par le feu. Vainement le fondeur s'emploie à fondre. L'escorie ne se détache point. Argent de rebut, voilà comment on les nomme. Oui, le Seigneur les a mis au rebut. Voilà l'ensemble de ce que nous venons de lire ce matin et maintenant, l'ensemble des oracles qui sont restés et qui datent vraisemblablement de l'époque de Josias. Vous aurez remarqué qu'il n'y a aucune allusion à la réforme de Josias. Aucune mention absolue, claire, concrète, explicite. Mais presque tout se base sur l'ennemi arrive du nord. L'ennemi va déferler contre vous. Est-ce que ces oracles sont antérieurs à la bataille de Megiddo? C'est possible. Pour mettre les choses tout à fait au point, parce que je n'ai pas été suffisamment clair ce matin, voici ce que l'on pense maintenant à propos de cette bataille de Megiddo. Je prends ici dans le cahier évangile numéro 40 par Jacques Brien, qui est très bien fait et qui est peut-être le plus explicite dans ce qui est des données historico-critiques concernant Jérémie. Je lis ceci à la page 8, à la fin de la première colonne. Par ces diverses initiatives, la politique de Josias rencontra un écho favorable. En particulier chez les réfugiés du Nord qui habitaient à Jérusalem, dont les gens qui étaient venus à Jérusalem après la chute de Samarie, ou dans les environs. N'est-ce pas la prophétesse Hulda, effectivement, c'était elle, qui avait inspiré Jérémie dans cette réforme, la prophétesse Hulda, qui habite le quartier neuf, que l'on consulte lors de la découverte du rouleau en 622, d'après le deuxième livre des rois. C'est-à-dire au moment de la réforme religieuse. Tout ce qui pouvait contribuer à restaurer l'indépendance nationale ne pouvait qu'être bien accueilli. Mais il n'en reste pas moins que l'influence de cette réforme voulue par Josias ne dut pas être très profonde. Et c'est probablement cela que ces oracles veulent dire, même s'ils ne parlent pas explicitement de cette réforme. Pourquoi ils n'en parlent pas explicitement ? Peut-être bien que, quand le livre a été composé à la fin de l'exil, peut-être bien, c'est justement pour ne pas trop souligner l'importance de cette réforme, puisque pour beaucoup, elle avait été un échec. Et effectivement, nous voyons que ça a été un échec. Donc tout ce qui pouvait contribuer à restaurer l'indépendance nationale ne pouvait qu'être bien accueilli, mais il n'en reste pas moins que l'influence de cette réforme voulue par Josias ne dut pas être très profonde, si on en juge par les oracles des prophètes Jérémie et Ézéchiel. Exactement. Quoi qu'il en soit, le roi Josias meurt à Megiddo en 609, et voilà ce qu'on pense maintenant, probablement assassiné, pour avoir tenté de s'opposer à l'intervention du pharaon Nécao II. Qui avait décidé de voler au secours de la Syrie contre Babylone, Babylone qui grandissait, qui montait, Nabopolassar. Et donc, il s'agit de toute cette époque. Alors, on vous parle des gens qui viennent du Nord. Qui sont ces gens qui viennent du Nord? Initialement, c'était les Assyriens. C'était eux qui avaient détruit la Samarie et la ville de Samarie. Mais, à l'époque où on publie ces textes, il s'agit évidemment de Babylone et de Nabucodonosor. Et donc, les oracles mélangent finalement ces deux invasions. La première, celle de l'époque des Assyriens, des Assyriens, et la deuxième, celle de Babylone, qui va se terminer justement par le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor et la chute de Jérusalem. Alors, après ce Josias, après cette mort de Josias à Megiddo, ou bien un accident, ou bien effectivement, comme le dit Jacques Brien, probablement assassiné par le groupe des égyptophiles. En 605, le général babylonien Nabuchodonosor attaque les Égyptiens massés à Carchemish. C'est tout à fait dans le nord, à la limite de la Syrie et de la Turquie. Massés à Carchemish et les prend par surprise, les refoulant jusqu'en Égypte. Donc vous avez vu l'influence des Égyptiens, mais en même temps, hein, le général babylonien, il n'était pas encore empereur à ce moment-là, mais apprenant la mort de son père Nabopolassar, il rentre précipitamment à Babylone, où il succède à son père. Il va recevoir, hein, là, la couronne. Il règne de 604 à 562. En 601, il fait une nouvelle campagne contre l'Égypte, mais celle-ci est désastreuse, car le roi manque de fonds, les vassaux ne payant pas leurs impôts de guerre. Et ça, c'est toujours le problème. Et d'ailleurs, les Israélites vont aussi en profiter, ils ne vont pas payer leurs tribus de guerre. C'est ainsi que Joachim, devenu tributaire de Babylone à la suite de Carchemish, Joachim, là, ne va régner que 3 mois, le premier fils de Josias, hein, en 609, va régner que 3 mois, hein, celui qu'on appelait Shalom dans l'intimité. Et alors c'est Joachim qui est un autre frère, mais Joachim avait 23 ans quand il monte sur le trône, il est tout de suite assassiné, et Joachim avait 25 ans, donc ce sont encore des jeunes, précisément parce que leur père est mort prématurément. Ainsi que Joachim, devenu tributaire de Babylone à la suite de Carchemish, se révolte en 602. Aussi, Nabuchodonosor vient-il mettre le siège devant Jérusalem et prend la ville, première prise de Jérusalem, le 16 mars 597. En décembre 599, Joachim meurt et son fils Joachim lui succède. Là, il y a une erreur, c'est 597 aussi. Son nom signifie, hein, Joachim, le Seigneur tient ferme. Joachim, c'est le Seigneur ressuscite, le Seigneur met debout. Joachim et Joachim. Donc c'est son nom, le gouvernement. Son nom signifie le Seigneur tient ferme. Son règne est de courte durée, car la même année il est exilé à Babylone et il est remplacé par son oncle Sédécias. Donc Joachim est le fils de Joachim, tandis que Sédécias, c'est le dernier subsistant, le dernier des enfants de Josias. Il est remplacé par son oncle Sédécias, alias Matania, fils de Josias et frère de Joachim, bien sûr, et de Joachim. Il règne de 598 à 587, entre la première prise de Jérusalem et la seconde, en qualité de régent, car Joachim reste roi. Le nom de Sédécia, hein, Sédécias, ça veut dire Dieu est justice, Sédécia. Le Seigneur est justice. Si Joachim demeure roi en titre, il est donc toujours porteur de la promesse faite par Dieu à David par le prophète Nathan. Aussi, à la fin de l'histoire, dans le livre des rois, au chapitre 25e, l'auteur aura à cœur de signaler son retour en grâce par le roi de Babylone, Avil-Marduk, qu'il admet à sa cour avec ses notables. Que veut dire toute cette histoire? Mais il faut que celui qui essaie de mettre tous ces oracles ensemble, il faut qu'il soit d'une part d'accord avec l'auteur de la geste que vous trouvez dans le livre des rois. Donc il faut qu'il montre que le plan de Dieu, c'est-à-dire la continuité de la descendance davidique, tient. Parce que si cette descendance davidique n'a pas le soutien de Dieu, alors qu'est-ce qu'elle est? Et d'autre part, il doit montrer que cette histoire est une histoire sordide, où on est tiré d'un côté et d'autre. Joachim va lorgner du côté de l'Égypte. Mais après la bataille de Carchémish, il devient tributaire de Babylone. Donc, il lorgne vers l'Égypte, mais il est tributaire de Babylone, et à la première occasion, il ne paye plus son tribut. Et il va vers l'Égypte. Et il est tout le temps hésitant. Et c'est pourquoi, à l'époque de Joachim, vous avez, ce sont les oracles qui vont venir maintenant, des oracles qui sont assez sévères. Contre, justement, la manière d'agir de Joachim, qui est tout à fait incohérente. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et il est pris, en quelque sorte, entre les avantages qu'il pourrait avoir de l'Égypte, les avantages par ailleurs que lui offre Babylone, et surtout coincé par les partisans égyptiens, qui semblaient très forts. Alors, Sédécias va être d'une autre trempe. Et Sédécias va se laisser davantage influencer par Jérémie. Tandis que, du côté du temps de Joachim, Jérémie n'a pas beaucoup de succès. Vous allez le voir. Sédécias a l'oreille beaucoup plus attentive à Jérémie. Et quelle est la position de Jérémie dans tout cela? Il dit voilà. Ou bien vous allez vers les Égyptiens, mais alors vous y allez carrément, mais attention, c'est finalement le général babylonien qui a eu le dessus, et qui est maintenant le chef, l'empereur babylonien, Nabucodonosor. Ou bien, puisque vous avez fait un traité avec Nabucodonosor, ben vous êtes fidèle à votre traité. Et donc Jérémie va être en quelque sorte partisan de l'union avec Babylone. Mais à cause de cela, il va être constamment aussi battu en brèche par les égyptophiles. Et on le voit torturé entre l'un et l'autre. Mais il faut bien vous rendre compte de l'histoire difficile qu'ils ont à vivre. Il n'y a pas moyen de transposer avec notre époque. Mais si vous regardez toute l'histoire récente que vous trouvez dans les journaux, et la manière justement dont l'Europe et l'Amérique jouent un jeu d'influence, vous vous rendez compte de ce qu'est l'homme qui veut dominer la situation. Il veut contrôler, que ce soit maintenant le Proche-Orient, le Moyen-Orient ou l'univers, peu importe, qui veut donc avoir raison, d'un côté comme de l'autre. Et vous avez les puissances qui montent et qui se lancent des plures de bananes, constamment. La petite histoire. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'histoire humaine, qui sont des histoires d'influence, qui sont des histoires d'argent, influence, argent, pouvoir, vont ensemble, c'est-à-dire les idoles, les impuissants, les néants, et la présence de Dieu que l'on oublie partout. Le droit, la justice, sont réduits à la manière dont chacun veut faire la justice et le droit, c'est-à-dire à son profit. Alors, au milieu de tout cela, qui sommes-nous? Comment agissons-nous? Qui est notre Dieu? Quelle est notre fidélité à Dieu? Est-ce que Dieu existe? Voilà. Est-ce que ça vaut encore la peine de lutter? Les bras nous en tombent. On arrête. Jérémie, en lutte intérieure et extérieure. En lutte extérieure, bien sûr, ben, il y a le roi, il y a la politique, il y a les invasions. Donc, son attitude vis-à-vis des événements extérieurs, mais surtout aussi aux prises avec ses problèmes intérieurs. Les situations dans toute vie posent des questions redoutables de responsabilité. Et c'est vrai qu'il est impossible de savoir exactement jusqu'à quel point nous agissons vraiment en vérité ou dans le droit. Et donc c'est une situation intérieure extrêmement difficile. Et c'est justement le bénéfice d'une lecture de Jérémie, c'est de parvenir à vivre cette situation tiraillée un peu dans tous les sens, ne sachant pas toujours exactement si nous avons bien fait ou si nous allons bien faire, et comment nous remettre dans cette situation-là, en disponibilité devant le Seigneur dans la paix. Et c'est toute l'expérience de Jérémie. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous parle constamment de revenir, de retourner, et qu'il parle également de cœur. Nous ne serons jamais parfaits. Et nous serons toujours menés devant des circonstances ou des situations que nous n'avons pas prévues. Et nous ne pourrons jamais nous donner 10 sur 10. Heureusement. Parce que nous ne gérons pas notre vie, au sens où nous n'en sommes pas maîtres. C'est le Seigneur qui en est le maître. Et donc, il faut à la fois s'efforcer et s'abandonner. Ce sont deux choses difficiles à faire en même temps. Et le discernement est difficile. Et voici un problème qui se pose immédiatement, c'est le problème du culte. Est-ce qu'on peut dire que notre manière de vénérer le Seigneur, notre manière de célébrer notre culte est authentique, vrai? Difficile à dire, hein? Et bien voilà. Ça commence justement par là. Le prophète va essayer de poser des questions aux gens qui viennent célébrer le culte dans le temple. Un peu comme si un prophète aujourd'hui se mettait à la sortie de la messe et dit, tiens, qu'est-ce que vous êtes venu faire à la messe, hein? Dites un peu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Expliquez un peu. Vous avez fait votre célébration du dimanche, c'est très bien, vous êtes content, satisfait, ça va bien. Et puis, comment allez-vous mettre maintenant cette réalité que vous venez de vivre dans votre vie de tous les jours? Il n'y a pas de distorsion entre les deux? Et bien voilà. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, chapitre 7. Tiens-toi à la porte du temple du Seigneur. Proclame-y cette parole et dis, écoutez la parole du Seigneur, vous tous judéens qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, et je resterai avec vous en ce lieu. Ne vous fiez point aux paroles mensongères. C'est là le sanctuaire du Seigneur, sanctuaire du Seigneur, sanctuaire du Seigneur. Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci du droit entre vous, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent en ce lieu, et si vous n'allez pas pour votre malheur à la suite de dieux étrangers, alors je resterai avec vous en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis si longtemps et pour toujours. Donc c'est la vérité du culte qui passe du temple dans la vie. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères. Vain espoir. Quoi ? Voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire « Nous voilà en sûreté » pour continuer toutes ces abominations. À vos yeux, est-ce une caverne de voleurs, ce temple qui porte mon nom ? Moi, en tout cas, je ne suis pas aveugle, oracle du Seigneur. Vous voyez qu'il reprend exactement le décalogue, hein ? Alors, le culte et le décalogue dans la vie, c'est la même réalité. Vous n'allez pas à dire, Seigneur, hein, Seigneur, et puis, à côté, quoi, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre vie? Donc, il y a un ajustement à faire. Et heureusement qu'il rappelle cela. Il rappelle que l'essentiel, c'est pas seulement avoir une belle célébration, c'est bien, il ne dit pas que c'est mauvais. Mais est-ce que cette célébration continue dans la réalité de la vie? Allez donc, et alors maintenant, il va faire cette fameuse comparaison que je vous annonçais avec Silo, le sanctuaire de Silo. Allez un peu voir à Silo comment ça s'est passé. Là, il y avait aussi un culte, mais ce culte était perverti. Et chacun essayait de tirer son profit. Allez donc à mon lieu de Silo. Naguère, j'y ai fait habiter mon nom. C'est-à-dire, c'était un véritable temple du Seigneur. Faire habiter son nom, ça veut dire être présent parmi les hommes. J'y fis habiter mon nom. Regardez ce que j'en ai fait. À cause de la perversité de mon peuple Israël. Il n'en reste plus rien, hein, des ruines, ce sanctuaire de Silo. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, oracle du Seigneur, et que vous n'avez pas écouté quand je vous parlais instamment et sans me lasser, et que vous n'avez pas répondu à mes appels, je vais traiter ce temple qui porte mon nom et dans lequel vous placez votre confiance, en ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, comme j'ai traité Silo. Vous vous glorifiez du temple de Jérusalem parce que c'est là que j'habite. Et alors ? Je peux aussi habiter sans avoir un beau sanctuaire. Je peux aussi être présent. Et la manière de me faire être présent, c'est de vivre ce que je vous inspire de vivre. C'est tout. Je vous rejetterai de devant moi, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm. Mais c'est terrible, hein ? Ces gens qui se glorifient précisément du beau temple de Jérusalem. Et puis, il s'adresse encore au prophète. Donc c'est le prophète qui reçoit cette commission à transmettre au peuple. Et toi, n'intercède pas pour ce peuple-là. N'élève pas en leur faveur de prières suppliantes. N'insiste pas auprès de moi, car je ne veux pas t'écouter. Ça veut dire au peuple, écoutez la parole du Seigneur. Ben, ils ne veulent pas m'écouter, je ne peux pas t'écouter non plus. Tu ne vois donc pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les gamins ramassent le bois, les pères allument le feu. les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel.
C'est pas la Vierge Marie.
Ah non, 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 la reine du ciel, c'est pas la Vierge Marie. Là, la reine du ciel, c'est la déesse Ishtar, hein, la déesse de Babylone. Et puis, on verse des libations à des dieux étrangers pour me blesser. Mais est-ce bien moi qui le blesse, oracle du Seigneur ? N'est-ce pas plutôt eux-mêmes pour leur propre confusion ? Quel est le jeu qu'ils jouent ? Il essaie justement, hein, par ses paroles, de purifier leur intention profonde, leur cœur, de les faire revenir. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici, ma colère, ma fureur va se déverser sur ce lieu, sur les hommes et le bétail, sur les arbres de la campagne et les fruits du sol. Elle va brûler sans s'éteindre. Belle perspective, hein, pour les gens de Jérusalem, hein, qui étaient tellement fiers de leur présence de Dieu. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Continuez, continuez. Car je n'ai rien dit ni prescrit à vos pères quand je les fis sortir du pays d'Égypte. Concernant l'holocauste et le sacrifice. Ce sont des choses qui sont venues par après, dans l'ordonnance de votre liturgie. Mais voici la prescription que je leur ai faite. Alors, vous pouvez ajouter des choses, vous pouvez changer éventuellement, mais essayez de savoir pourquoi. Écoutez, vous remarquerez aussi que le terme écouter revient un peu à toutes les sauces dans ce texte. Écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais écoutez la voix, vous savez qu'en hébreu, on écoute dans la voix. C'est-à-dire, on se place à l'intérieur de celui qui dicte sa volonté. Écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ce sont les paroles de l'alliance. Alors, nous vivrons en commun accord, en alliance véritable. Mais si vous allez chercher d'autres choses, si vous mettez d'autres réalités à la place de moi, alors, vous cherchez d'autres alliances. Vous vous prostituez, autrement dit. Suivez jusqu'au bout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté, ni prêté l'oreille. Ils ont suivi le penchant de leur cœur mauvais. Ils ont tourné vers moi leur dos et non leur face. Toujours les mêmes expressions, hein. Au lieu de me regarder, au lieu de faire attention, tourne le dos. C'est-à-dire, ils se retournent sur eux-mêmes. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, chaque jour, sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leur père. Tu peux leur dire toutes ces paroles. Tu peux leur dire toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Hein. Tu peux les interpeller, ils ne te répondront pas. Dis-leur donc, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus. Elle a disparu de leur bouche. Fidélité, vérité ou mensonge. Ce texte va loin parce qu'il plonge à l'intérieur de nos intentions. Nous pensons souvent que nos intentions sont tout à fait pures. Je ne parle pas ici de psychologie uniquement. On peut aussi voir le point de vue psychologique, non, profondément. Est-ce que notre intention profonde peut être vraiment pure? Ben, elle doit s'efforcer de l'être. Mais il y a toujours, toujours à l'approfondir. Coupe tes longs cheveux, jette-les. Entonne sur les monts chauves une lamentation. Les longs cheveux, c'est généralement quand on a fait un vœu. Nazir, hein, il laisse pousser ses cheveux. Jette-les, c'est-à-dire, tu as terminé ton vœu, tu t'es acquitté de ton vœu. Entonne sur les monts chauves, précisément les endroits où on faisait des sacrifices pour les idoles, une lamentation. Car le Seigneur a dédaigné et repoussé la génération qu'il déteste. Comment le Seigneur peut-il nous détester et nous aimer? Oui, les fils de Juda ont fait ce qui me déplaît, oracle du Seigneur. Ils ont installé leurs horreurs dans le temple qui porte mon nom pour le souiller. Et il ne faut pas attendre le moment où Antiochus IV Épiphane va mettre la statue de Zeus sur l'esplanade du temple. Non, lorsque nous faisons le culte, lorsque nous observons le culte, au fond, pour nous réconforter le cœur, nous ne sommes pas encore en état de véritable adoration. Donc il y a encore des progrès à faire. Le tout est de ne pas nous dire, nous faisons bien, ou nous sommes parfaits, puisque ce n'est pas le cas. Alors il va leur montrer que ça va beaucoup plus loin, puisque Akaz lui-même, et peut-être d'autres aussi, ont sacrifié leur enfant dans cette vallée de la Géhenne. Et ils ont sacrifié leur enfant à Moloch, c'est-à-dire le dieu des Mésopotamiens, pour se garantir. Oui, les fils de Juda ont fait ce qui me déplaît, oracle du Seigneur. Ils ont installé leurs horreurs dans le temple qui porte mon nom pour le souiller. Ils ont construit le haut lieu de Tophet, c'est ça, de la honte, dans la vallée de Ben-Hinnom, de la Géhenne, Gé-Hinnom, pour brûler leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point prescrit, à quoi je n'avais jamais songé. Donc ils ont détourné le sens du sacrifice. Puisque ce n'est pas à moi qu'ils ont sacrifié, mais c'est à des dieux étrangers. Mais ce qui se passe là au temple, au cœur du temple, ça se passe dans toutes les vies, dit-il. Donc vous avez à vous réformer. Aussi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où l'on ne parlera plus de Tophet ni de la vallée de Beth-Hinnom, mais de vallée du carnage. On enterrera alors à Tophet faute de place. Là, il y aura tellement de monde à enterrer. Pourquoi? Ben, parce qu'il y aura beaucoup de morts. Quand la ville de Jérusalem sera prise, ben, on enterrera où l'on pourra. Et on enterrera à moitié. Et il y a des morceaux de cadavres qui sortiront de la terre. On enterrera alors à Tophet faute de place. Les cadavres de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre que nul ne chassera. Il n'y aura plus de personne pour les chasser. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de jubilation et de joie, les appels du fiancé et de la fiancée, car le pays ne sera plus qu'un désert. Cette belle ville dont vous vous glorifiez, ce temple qui porte mon nom, les Babyloniens n'en feront qu'une bouchée. En ce temps-là, oracle du Seigneur, on tirera de leur tombe les ossements des rois de Juda, ceux de ses grands, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les étalera devant le soleil, la lune et toute l'armée du ciel. Vous savez que les Mésopotamiens glorifiaient précisément l'armée du ciel. C'était des astrologues, hein, qu'ils ont aimé et servi, suivi et consulté, devant qui ils se sont prosternés. Ils ne seront ni recueillis, ni enterrés de nouveau, ils resteront sur le sol en guise de fumier. Ça, c'est horrible, hein. On ne peut pas laisser, c'est pestilentiel de laisser des cadavres pourrir sous le soleil. Et la mort vaudra mieux que la vie pour tous les survivants de cette race perverse, en tout lieu où je les aurai chassés, oracle du Seigneur des armées. C'est un texte terrible. Tout ce qui est le plus sacré, voilà que Dieu dit, à travers le prophète, tout ça, ça ne sert à rien. Votre culte est perverti. Et ça fait poser des questions aux gens de l'époque et à nous qui lisons cela aujourd'hui. Où est-il ton Dieu? Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Tu leur diras, hein, à ce long oracle sur le culte, sur le vrai culte que vous retrouvez, hein, en d'autres termes chez d'autres prophètes, est suivi par des lamentations. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Fait-on une chute sans espoir de se relever? Quand vous tombez, vous pensez bien vous relever, non? S'égare-t-on sans espoir de retour? On peut bien s'égarer, mais c'est quand même pour trouver un retour, un chouve. Pourquoi ce peuple-là reste-t-il rebelle de façon continue? Il reste tombé. Ils ne songent pas à se remettre sur la bonne voie. Ils tiennent fortement au mensonge. Ils refusent de revenir. Chouve toujours, hein, de revenir. J'ai écouté attentivement. Ils ne parlent pas comme il faut. Nul ne déplore, c'est-à-dire nul ne revient sur sa méchanceté. En disant, qu'ai-je fait ? Tous s'égarent à poursuivre leur course, tel un cheval qui fonce au combat. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la grue observent le temps de leur migration. Ils savent quand il faut venir. Hein? Ce sont des oiseaux migrateurs, comme nous disons. Et mon peuple ne connaît pas le droit du Seigneur. Purification intérieure. Est-ce que c'est vraiment entre les mains du Seigneur que je remets ma cause, que je me remets, ou est-ce entre mes propres mains? Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, nous avons la loi du Seigneur, on sait comment on doit faire? Vraiment. C'est en mensonge que l'a changé le calame mensonger des scribes, hein, la plume mensongère des scribes. Les sages seront honteux, consternés et pris au piège. Les sages, ce sont ceux qui doivent dire quelle est la loi, l'interpréter. Comment interprète-t-on la loi? Voilà qu'ils ont méprisé la parole du Seigneur. Et leur sagesse, à quoi sert-elle? La sagesse qui s'oppose à la Torah, à la voix du Seigneur, c'est au fond ma propre interprétation. Et ce danger existe toujours, pour tout. Hein, il faut pas se leurrer. Est-ce que je suis responsable de mon action? Responsable devant Dieu. Aussi, donnerai-je leur femme à d'autres, leur champ à de nouveaux maîtres, car du plus petit, et on trouve un thème qu'il utilise souvent, car du plus petit au plus grand, tous sont avides de rapine. Prophètes comme prêtres, tous, ils pratiquent la fraude. Ils pensent la blessure de la fille de mon peuple à la légère. Et il revient en disant « Paix, paix, et il n'y a pas de paix, paix, shalom. » Il dit « Shalom, shalom, ça va bien, tout va bien, et il n'y a pas de paix. » Ils auront honte de leurs actes abominables. Ben déjà, ils ne sentent plus la honte. Ils ne savent plus rougir. Hein? Encore un thème qui revient chaque fois. Aussi, tomberont-ils parmi ceux qui tombent, ils trébucheront quand je les visiterai, déclare le Seigneur. Ce thème est très important. Il sera repris dans une autre perception, dans une autre mentalité, par saint Paul. Vous avez des passages de saint Paul qui semblent écorcher ou même supprimer parfois la loi. Paul n'en veut pas du tout à la loi. Hein? Au contraire, il la vénère très profondément. Mais quand il parle de la loi, il parle de ceux qui se targuent de leur observance de la loi pour dire « Voilà, nous sommes en sécurité. » Or la loi, comme il le dit lui-même, la loi ne donne pas la sécurité. La loi indique un chemin, mais la sécurité, enfin la véritable assurance, pas la sécurité, l'assurance vient de Dieu. Et c'est pourquoi il oppose à l'observance de la loi le don de la foi. Foi et loi s'opposent. La loi, c'est celui qui dit « J'ai bien observé toutes les prescriptions. » Et donc, je suis sauvé. Non, dit le Seigneur, ça ne suffit pas à te sauver. Parce que c'est à la force des poignets que tu as fait ton observance. Mais si tu es pécheur et que tu adhères vraiment dans ton cœur à Dieu, là tu es sauvé. Parce que tu crois que ton salut ne vient pas de ton observance, de la loi, mais vient de Dieu, gratuitement. La loi ne donne pas le salut. C'est ce que saint Paul dit, en toutes lettres cette fois-ci.
Dans quel texte, Paul?
On a surtout ça dans Galates. C'est surtout Galates et Romains.
Et Romains aussi.
Hein? Surtout. Mais c'est surtout Galates qui parle de la force de la loi. Mais c'est ça qu'il signifie. C'est pas la loi en elle-même. Grand Dieu, non. La loi est un pédagogue vers le Christ, dit-il. Mais quand il oppose loi et foi, c'est cela qu'il veut dire. Et vous voyez que cette théologie se trouve déjà présente ici. Elle continuera aussi d'être présente dans le Talmud. Hein. Et c'est comme ça que vous aurez, face aux interprètes stricts, nous dirions aujourd'hui fondamentalistes de la Torah, dans le Talmud, vous avez les chassidim, c'est-à-dire ceux qui font de la loi leur joie. Avec toutes les gammes, hein. Dans le judaïsme, vous avez toutes les gammes, dans le christianisme aussi. Et alors,
quoi ? Que je dis
chassid ? Le chassid, c'est le pieux. Et ici, il parle de cigogne, et la cigogne, ça s'appelle chassida, la pieuse. Il prend l'attitude du marabout, là, hein, sur un pied. Hein. Chassida. Il parle justement ici de cigogne. Les chassidim, donc, ce sont ceux qui ont découvert qu'ils sont présumément sauvés, non pas par leur observance de la Torah, mais par la grâce de Dieu qui se donne aussi dans la Torah. Donc c'est une grande liberté intérieure. Et là, il rejoint très fort Jérémie. Et alors, vous avez ce beau passage qui est repris dans l'Évangile. Vous savez que le passage que nous venons voir là, temple du Seigneur, temple du Seigneur. Jésus le prend dans l'évangile. Hein. Mmh.
Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, en faisant la volonté du Père.
Et puis lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, hein, est-ce une caverne de brigands, ce temple qui porte mon nom hein? Quoi hein? Je voudrais récolter chez eux, déclare le Seigneur. Récolter. C'est le Seigneur qui récolte. Non pas mes efforts ou le fruit de mes efforts, mais il voudrait récolter les fruits de sa grâce. C'est ça que le Seigneur voudrait. Il voudrait récolter chez eux, déclare le Seigneur. Point de raisin à la vigne, point de figue au figuier. Et vous avez l'apologue du figuier stérile. Quand Jésus, justement, vient à Jérusalem vers son temple, entrée de Jésus à Jérusalem, c'est pas pour rien. Hein? C'est une relecture de ce texte de Jérémie. Jésus vient à Jérusalem dans son temple, voilà, il voudrait récolter du fruit au figuier, il ne trouve pas de fruit. Et puis, c'était pas la saison des figues, ben voilà, il n'avait pas encore produit leurs fruits. Il vient à Jérusalem, il voudrait récolter les fruits de la piété de Jérusalem.
Les fruits sont sur cassette.
Et ils ne trouvent pas de fruits. Vous savez que en Israël, vous avez la vigne, et souvent la vigne est entourée de figuiers. La vigne symbolise le peuple, dans le langage des prophètes, et les figuiers, les gardiens, c'est-à-dire la Torah qui garde le peuple. Eh bien voilà, point de raisin à la vigne, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a été stérile, comme nous, la plupart du temps, hein, ni de figue au figuier. Et même les commandements, les figues sont comparées à les commandements, qui sont pas très beaux à l'extérieur, mais qui sont sucrés à l'intérieur. Même les feuilles sont flétries, vous voyez hein, le passage sur le figuier stérile. C'est que je leur ai procuré des ravageurs qui les ravagent.